Comment dire le poème ? Sans citer, sans paraphraser, sans réduire, sans faire trop de bruit, là où le silence est parfois nécessaire. Comment dire la poésie, cet entre-là de mots et de formes, de musique, d'obscurité et d'éclair ? Comment dire et comment entendre ? Comment parler de poésie sans être tarte à la crème, lyrico-lyrique ou poético-poétique ? Voilà notre défi aujourd'hui avec Marie-Christine Gordien, auteure de La Monnaie des songes et autres recueils. Marie-Christine Gordien, de passage à Paris pour le marché de la poésie qui s'ouvre en milieu de semaine. Bonjour.
Bonjour.
Poète, poétesse, savez-vous répondre à cette question ? Comment dire, donc définir la poésie, vous qui n'avez de cesse que de jouer avec les formes et tous les registres de la langue ?
Alors, la poétesse, la poète me suffit amplement.
Et la poésie, comment vous la définissez ?
Alors, dernièrement, j'ai eu en main un livre de André Chédide qui s'appelle « Texte pour un poème ». Et j'ai bien aimé ce titre. Pourquoi ? Parce que je pense que la poésie est partout et qu'elle accueille nos mots. Ce que veut dire « texte pour un poème ». La poésie est partout et elle est accueillante. Nos mots peuvent tomber dedans. Donc la poésie, finalement, comment dire, n'a peut-être pas de frontières. Nous, poètes, nous avons des limites, des territoires, mais la poésie n'a pas de frontières. Elle accueille les phrases, elle accueille les voix, la respiration.
Mais voilà. aimez-vous ce mot de poésie ? Parce qu'il y a aussi l'adjectif poétique et personnellement, je trouve qu'il est souvent un peu galvaudé, un peu trop facile. Vous voyez, on dit c'est beau, c'est poétique. Mais la poésie peut être aussi moche, dure, violente, agressive.
Oui, on dira, si on suit un peu, j'ai un peu suivi Mallarmé, on dira, je pense à la beauté du diable. Voilà, c'est un peu ça.
La poésie, c'est la beauté du diable.
J'aime bien un jeune garçon déscolarisé, je mène des ateliers d'écriture, qui disait la chose suivante, la poésie est un malheur qui revient en de bons termes.
C'est magnifique.
Je trouve ça tout à fait magnifique. Et pour un jeune homme, en plus, au moment où je donnais l'atelier, qui était déscolarisé, un peu sorti de l'école. Ouais. Eh bien, ouais, voilà, c'est ce que si ça vous va, c'est un peu ça. Ouais.
Ah, ça me va très, 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 très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a une relation très forte pour vous, en tout cas, Marie-Christine Gordien, entre la poésie et la parole ? Parce que vous dites « travailler la parole, tenter de garder l'économie de la conversation dans vos textes poétiques ».
C'est ça. Je parle plus volontiers plus que de poésie, je parle de parole écrite. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait conserver la voix, sa tessiture, tout le débit respiratoire, le Novarina a dit le drame respiratoire, la respiration, voilà. C'est la poésie, pour moi, c'est le jeu entre l'écriture strictement et la voix. La respiration.
Mais cette conversation, elle est avec qui ? Elle est avec les vivants ou elle est avec les morts ? Elle est avec les vivants et les morts ? Avec la nature, le soleil, les vagues ?
Un peu avec tout ce que vous dites. Mais c'est vrai que quelquefois, on a la sensation de dialoguer avec des choses, dirions-nous, mortes, mais qui sont quand même d'une d'une cruelle en nous, dans notre physique, d'une cruelle actualité, d'une cruelle présence.
Je vous pose la question, Marie-Christine Gordien, parce que La Monnaie des songes, qui regroupe plusieurs de vos recueils et qui vient de paraître, est dédiée à vos aïeuls. Et il faut les nommer, peut-être.
Enfin, il m'a fallu les nommer, oui. Il m'a fallu les nommer. Mais je les ai rencontrés tard. Dans ma vie, sur mon parcours, j'ai pas toujours su que j'avais des aïeux et aïeules esclaves qui avaient été transbordés depuis, pour ma part, depuis le Bénin jusqu'en Guadeloupe. Alors, vous voulez que je les cite ? Il y a Misère et il y a Georges. Georges Boïki, donc c'est mon arrière-grand-père.
Et puis il y a votre arrière-grand-mère.
Ah, voilà, Misère, auquel j'ai consacré un poème. Et ces figures familiales reviennent fréquemment dans mes poèmes.
Vous écrivez donc avec leur voix et leur mémoire ?
Je sais pas. En tout cas, j'essaie de les honorer, on va dire, d'une certaine manière. Vous me posez une question bien difficile, mais c'est quelque chose, en tout cas dans le poème, strictement que je prends en charge. Voilà.
Alors nous allons.
C'est une mémoire que je prends en charge.
Nous allons continuer à essayer de prendre en charge cette mémoire, à éclaircir l'obscur. Mais quel sens donnez-vous à ce titre, la monnaie des songes ?
Ah !
Parce qu'on pense forcément à monnaie de singe, expression qui est utilisée pour parler de quelque chose qui n'a pas de valeur, mais la monnaie des songes.
Ça n'a rien à voir avec... souvent on m'a parlé de ça, de la monnaie de singe, mais ça n'a rien à voir en fait. J'ai d'abord pensé à une plante fleur que je voyais quand j'étais enfant. Nous allions en vacances dans les terres de maman en Ardèche, à l'Ardèche, la Haute-Loire. Et devant la maison, il y avait une pierre et puis il poussait des plantes alors, un peu translucides, rondes comme des pièces, d'où la monnaie. Avec des petites graines noires dedans, une fleur un peu... irréel. J'ai d'abord pensé à ça, et ensuite j'ai pensé à ces petits objets, ces pièces qu'on trouve, qu'on retrouve de temps en temps dans un pantalon ou une jupe qu'on a abandonnée. Tiens, on se dit, tiens, il y a une pièce, c'est comme un retour à la réalité. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai titré le livre « La monnaie des songes ». C'est-à-dire la poésie comme ce qui reste de réalité depuis quand on est sorti du songe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui.
Oui, ça va.
Bon. Marie-Christine Gordien, nous allons évoquer ce recueil, votre histoire aussi, vos origines guadeloupéennes et ardéchoises, vos inspirations, vos engagements. Mais nous faisons auparavant un détour par Genève. C'est notre rendez-vous ailleurs. Bonjour Boniface Bongo-Boussa.
Bonjour.
Vous êtes auteur et co-organisateur du Salon africain dans le cadre du Salon du livre et de la presse de Genève. C'est donc un salon dans le salon.
Tout à fait. C'est comme les poupées russes. Ça a toujours été comme ça, une matrioshka.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de ghetto alors que la littérature monde se joue des frontières et que les éditeurs, me semble-t-il, sont de plus en plus ouverts au vent d'ailleurs ?
Non, je pense que cette spécificité permet surtout aux visiteurs de venir au salon africain. Je pense que le grand danger plutôt c'est de noyer justement l'Afrique qui est déjà elle-même marginalisée par l'histoire, l'économie et donc le fait qu'il y ait ce salon dans le salon donne une identité et puis une présence forte.
Et une visibilité. Alors la programmation s'étale sur 4 jours avec une douzaine d'auteurs invités et une réflexion sur les grands thèmes du moment, c'est-à-dire la décolonisation, l'identité, c'est ça ?
Tout à fait, c'est vraiment, vous avez tout résumé. La question décoloniale, l'identité, la transmission, la relation entre mémoire et histoire.
Et il y a une belle part laissée aussi au slam.
a une belle part à laisser au slam, et voire même à la bande dessinée, avec Nadia Kiri, qui est une illustratrice qui nous vient de la Tunisie. Et donc, oui, on a ouvert à l'image, au slam, à la chanson.
Alors, je parlais de slam parce que Souleymane Diamanka est invité de ce salon africain, mais aussi Fanatiki, qui vient de remporter le Prix Voix d'Afrique organisé par RFI et Jean-Claude Lattès. Et, oui. Et vous lui proposez de faire des ateliers pour enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour des gens qui viennent acheter des livres.
Ah non, 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 non. On veut justement les amener dans les écoles. C'est une façon aussi d'amener le lectorat jeune vers la littérature africaine. Et comme ça passe par le slam, c'est un peu plus ludique. C'est vraiment bien trouvé.
Et puis, vous allez peut-être me donner un scoop, il y a la remise du prix Kourouma.
Ah oui, un grand prix Kourouma qui célèbre un grand écrivain, mais malheureusement, secret d'État, malheureusement, j'aime bien vraiment votre travail RFI, mais si je vous donne le scoop, je suis en miettes demain.
Et c'est qui ?
J'ai signé la charte, donc je peux pas, sinon je me mets en porte-à-faux. Vous serez vendredi.
On se donne rendez-vous pour vendredi. Merci beaucoup Boniface Mongoboussa et bon salon à Genève, donc c'est du 21 au 24 octobre.
Merci Pascal Paradou, merci beaucoup à vous.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Stromae, premier titre d'un nouvel album annoncé pour la fin de l'année. Et avec ce titre Santé, Stromae marque son grand retour après plus de 6 ans d'absence. Et il rend un bel hommage aux invisibles de la crise Covid. Alors, on parlait d'ateliers avec Boniface Mongoboussa. Vous animez aussi beaucoup d'ateliers, Marie-Christine Gordien, avec les jeunes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous dites d'eux que leur langue est froissée. Ça veut dire quoi, une langue froissée?
Je l'ai dit dans un texte.
Dans une interview, oui.
Une langue froissée. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'était, quand c'est un petit peu tiré de son contexte, mais une langue froissée, oh, ça va peut-être même au-delà qu'une langue froissée. C'est-à-dire, il fait toujours arriver, je ne sais pas, ce que j'essaie de faire, à déplier les choses, à déplier les mots, à... des endroits où ils sont des endroits où ils sont. C'est compliqué, froissé. Alors, vous me prenez vraiment.
Pardon.
Vous me prenez. Parce que j'essaye de voir dans quel contexte j'avais écrit ça. Et là, en froissé, oui.
Mais vous leur apprenez quoi?
C'est peut-être comme. C'est peut-être comme quand on prend un papier, qu'on le. Avant de le mettre à la poubelle, on le. D'en faire une boulette, puis on le jette. Voilà, c'est ça leur langue. Leur langue, d'une certaine manière, ça voudrait dire que ce qu'ils disent, on n'en veut pas. Ce qu'ils pensent, on n'en veut pas. Ce qu'ils sentent, on n'en veut pas. Ce qu'ils aiment, on n'en veut pas. Les silences qu'ils entretiennent, on n'en veut pas. Je pense que c'est comme ça que j'ai dit ça.
Donc ouais. Vous leur apprenez quoi? Vous leur dites juste que vous les aimez, qu'ils peuvent être aimés, que leurs mots ont l'importance?
C'est ce qui arrive, mais ce que je fais, c'est que je lis beaucoup de poètes. Je leur donne à entendre beaucoup de voix, puisque les poètes, ce que je trouve fascinant chez les poètes, c'est qu'ils nous permettent d'avoir, ils permettent un corps à nos émotions et de les rendre légitimes. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on apprenait encore beaucoup les poésies par cœur. Là, on disait la récitation, lors de la récitation, il y avait encore des petites estrades. Et je montais sur cette estrade, je récitais, j'aimais bien à l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots sans voix, etc. Et à la fin du poème, j'avais bien récité, et je disais Jacques Prévert. Et vraiment, je me sentais Jacques Prévert. Et comme je disais la dernière fois à un ami, Jacques Prévert, c'est... quand ça arrive, ça, c'est... Le poète, il te laisse les clés de sa bagnole, quoi. Il te laisse les clés de sa caisse. Voilà. On peut exister dans les poèmes.
Alain Mabankou, qui dirige cette collection Point Poésie dans laquelle vous êtes édité, affirme que l'on reconquiert son identité par la poésie et que ça a été notamment le cas pour les Africains avec le mouvement de la négritude. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui. Oui, j'ai rien à redire. Ouais. Tout est bien dit.
Et pourtant, dans un de vos poèmes, vous écrivez « Je ne suis rien ni personne, je ne suis ni noir ni blanc, j'habite un pays qui n'existe pas, une maison fantôme. » Et un peu plus loin, vous dites « Je suis un cheval, un lion, une colombe, un papillon. » Alors vous êtes qui, Marie-Christine Gordien?
Et vous savez, peut-être, c'est pas mal. Ce que je dis là, il faut pouvoir être aussi un moment personne. La difficulté, peut-être, c'est d'être trop noté, trop enfermé, trop désigné. Et la difficulté, c'est de sortir de là, de pouvoir être rien et personne. C'est avant toute reconquête, entre guillemets, hein, d'une sensibilité. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est difficile, c'est marrant, c'est difficile d'être personne aussi. Des fois, on peut pas.
Mais on est toujours un individu, on est toujours une personne, on est toujours une sensibilité.
C'est ça.
C'est ça, être personne.
Et oui. On recouvre notre sensibilité, mais qui n'est pas... C'est un petit peu l'objet de ma poésie, mais qui n'est pas... dont les frontières vont être dressées par nous-mêmes et non pas forcément par ce qui vient de nous désigner de l'extérieur.
Est-ce que vous vous inscrivez dans la foulée de la poésie de la négritude? Parce que vous citez souvent, et vous avez fait des poèmes en hommage à Léon Gontangamas ou à Césaire, « J'ai repris pied dans ma langue par la poésie de Césaire », dites-vous.
Oui, c'est ce que je dis. Quand j'ai eu le recueil, cahier d'un retour au pays natal, et ben c'est-à-dire, ce monsieur me dit simplement, voilà comment tu peux te servir, utiliser cette langue, le français. Il ne l'utilisait pas comme les autres. Voilà, il y avait quelque chose d'assez frappant dans sa poésie.
Ce monsieur, Aimé Césaire, qui a souvent raconté son entrée en écriture en s'affranchissant des formes classiques apprises à l'école des Blancs.
Quand j'ai voulu écrire, j'ai repoussé toutes les formes traditionnelles et j'ai dit, j'écrirai à ma manière, donc je vais écrire en prose. Et c'est comme ça que j'ai écrit « Cahier de retour au pays natal ». Je n'ai pas du tout parti avec l'idée que je vais faire un poème. Je vais dire ce que j'ai sous le cœur, je le ferai n'importe comment. Ce sera un cahier, c'est pourquoi il porte ce titre tout à fait scolaire. Et puis on verra bien ce que c'est. Est-ce que c'est de la prose, est-ce que c'est de la poésie, je n'en sais rien. Mais j'avais quelque chose à dire.
Marie-Christine Gordien, est-ce que vous partagez cette liberté-là, prose, poème
Oui.
C'est un peu votre cas.
Oui, oui, oui. Puisque c'est les, je crois que c'est les, c'est comment, c'est Marina Tsvateva qui dit ça. C'est les mots vont vers les choses et pas l'inverse. C'est les mots. C'est ce quand il dit je vais écrire un peu comme je veux ce que mon cœur me dit. C'est ça. C'est les mots me mèneront vers les choses.
Mais comment s'est passé le passage à l'acte pour vous?
Chaillotte, le premier livre de poèmes, eh bien, c'est quelque chose que j'ai écrit qui est resté longtemps dans un tiroir, mais c'est un texte que j'ai écrit extrêmement vite, dans une grande tension. Et l'idée, enfin, dans mon corps, c'était, il faut absolument écrire ça, parce que... comment le dire vite? Sinon, peut-être, tu vas être... C'est un bout de ton corps, parce que sinon, tu mourrais, d'une certaine manière. Je vais très vite, hein, mais c'est un peu ça. Alors, j'ai écrit ce texte, et qui est resté un bon moment dans mon tiroir. Quelques personnes m'avaient dit, bon, c'est bien ça, il faudrait l'amener, l'éditer. Simplement, on m'avait dit ça, j'étais contente. Après, il y a eu d'autres...
Mais c'est qui Chaillotte? Parce que c'est à la fois le texte, c'est un long cri ou une déclaration d'amour à un personnage qui garde son mystère. On ne sait pas vraiment si c'est une femme, si c'est un fantôme, c'est si ça. C'est une poupée.
Oui, c'est ça.
C'est tout ça à la fois.
Ces derniers temps, je me disais, c'est un peu... C'est un autre de mes corps, naturellement. Mais alors, j'aimais bien l'idée de... C'est ma petite sœur morte. Voilà, quelque chose comme ça. On peut le dire poétiquement, on peut le dire comme ça.
Et vous le dites avec le sourire. Marie-Christine Gordier. J'aimerais que vous nous lisiez un court extrait de Chaillotte. Alors, non pas le début qui commence par « Oh, quand je pense à ma pauvre Chaillotte », mais plutôt la fin.
Chaillotte, pierre languissante, mât, drap de peau, boule sur elle-même, tenant sa langue dans son sang. Je ne suis à l'origine de rien. Chaillotte, morceaux de bois sec, miroir où les mots se brisent, violence secouée de sanglots, tempête. Chaillotte, morte, fripée, poupée blanche cassée, poupée noire oubliée. Chaillotte prend sur elle, ramasse d'un coup sec, ses peaux de souffle, de vent, de sang, de sel. Chaillotte meurt. Il n'y a plus de fruits dans le cerisier. Ailleurs que dans le monde des hommes, ne respire pas, la tête enfouie, se redressant parfois, à force d'efforts, le nez pissant la terre, boueuse de larmes, sanglots de racines. Laisse-moi souffrir ton silence. Chaillotte est gelée. Je pose sur elle son manteau de mousse, de laine et de pluie.
Chaillotte, c'est donc avec ce texte que commence votre entrée en littérature, Marie-Christine Gordien. Sanglots de racines. Ces sanglots qui viennent d'où? Du plus profond de l'histoire, de l'enfance, du passé?
Peut-être pas du plus profond de l'histoire, mais du silence. On ne savait pas grand-chose. Hein. Il a fallu attendre tard pour savoir quelque chose de cette histoire, de ces aïeux, de cette violence. Dans ces époques-là, c'est-à-dire dans les années 60, mon père et ma mère mes parents, on ne parlait pas de ça. Moi, j'avais l'impression que mon père, il était de là, hein, de la même région que maman, hein, de la Drôme. On ne parlait pas de ces histoires. En revanche, on sentait ce qui manquait par le silence, des sortes de pesanteurs, on va dire. Il manquait dans la conversation, dans la discussion. Voilà.
Donc la poésie permet de faire émerger cette part manquante.
Oui, cette part manquante, c'est Glissant qui dit ça. Oui, de la faire émerger. Alors, c'est-à-dire, oui, de la faire émerger sans violence et sans revendication, mais simplement comme une partie intégrante de ce qu'on est, de notre personnalité, de notre sensibilité, comme on disait tout à l'heure. Voilà.
Parce que votre écriture, Marie-Christine Gordien, votre œuvre, se met dans cet héritage-là, dans cette histoire-là de la négritude des grands poètes, etc. Mais l'Afrique et l'esclavage ne sont pas le cœur absolument de cette œuvre. Vous dites cette très belle chose, « Les côtes africaines m'ont dit leur place dans l'ordre de mes souvenirs. »
C'est ça.
Donc l'Afrique et cette histoire des peuples africains liés à l'esclavage en partie sont une présence, mais pas forcément le centre.
Voilà, c'est plutôt des jeux de relations, des jeux de tensions. Ni le racisme, ni la négritude, ni la question de l'esclavage ne font centre, ou alors qu'il y ait plusieurs centres. Voilà.
Dont la nature.
Oui, c'est-à-dire dans
la solitude.
Oui, dans cette question du métissage, il faut. Vous savez, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de puzzles. Voilà, mais c'est un peu ça.
Mais combien de pièces ?
Alors, j'ai commencé par 100, figurez-vous.
Ah oui, c'est pas mal.
Et je suis montée jusqu'à 4000 pièces.
Ah ouais, chapeau.
Alors, j'aimais beaucoup les puzzles. Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas de centre, mais il faut assembler, réassembler, composer et recomposer des différentes histoires, différents éléments. C'est plutôt ça dont je parle.
Alors, j'évoquais la nature et j'ai envie de citer quelques titres de vos recueils parce que je les trouve très beaux. L'apostrophe des côtes, l'inconsistance des pierres ou encore la première mer. Mmh. Elle est là, hein, elle est bien là, la nature.
Elle est de plus en plus présente même dans ce que...
Pourquoi, vous savez ?
Dans ce que j'écris aujourd'hui. Je deviens peut-être de plus en plus sentimentale. Je ne sais pas, je finis par préférer les paysages et la grande solitude et les grands plateaux.
La solitude est en tout cas une invitée de marque aussi. J'aurais aimé vous faire lire un autre extrait de votre recueil, mais malheureusement le temps file et nous n'avons pas le temps, mais ça va inciter les auditeurs à aller se plonger dans votre texte. La solitude, c'est quand même une des émotions, un des ressentis, un des états qui vous est cher.
Oui. Oui, oui, oui.
C'est la solitude.
Vous le dites bien.
Mais c'est la solitude de l'enfant, c'est la solitude de l'être humain.
Alors, c'est bien ce que vous dites, la solitude de l'enfant. C'est cette solitude, ne pas perdre le sens et la saveur de cette solitude qui existait pour moi enfant. Vous savez, les enfants, on joue, les adultes tournent. On a encore un peu de temps ?
Pas du tout.
On n'a plus de temps.
On n'a plus de temps.
Bon,
mais je vous réinvite, c'est promis. On fait un pacte de sang. Merci beaucoup, Marie-Christine Gordien. La Monnaie des songes est éditée dans la collection Point Poésie. Et vous serez au marché de la poésie cette fin de semaine à Paris. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Labolo, Ludivine Amado. On se retrouve demain.